Guerre et paix. Première partie, chapitre 5, scène 1. Après son explication avec sa femme, Pierre s'était mis en route pour Pétersbourg. Arrivé au relais de Torjok, il n'y trouva pas de chevaux, ou peut-être le maître de poste ne voulut-il pas lui en donner. Obligé d'attendre, il s'étendit sans se déshabiller et sans quitter ses grosses bottes fourrées sur le grand divan placé devant une table ronde et se mit à réfléchir.
Faut-il apporter les malles et préparer un lit? Votre Excellence veut-elle du thé?
Pierre ne répondit pas. Il n'avait rien vu, ni rien entendu, plongé dans les réflexions qu'il absorbait depuis quelques heures. Peu lui importait, en face des graves questions qui s'agitaient dans son esprit, d'arriver plus ou moins tard à Pétersbourg et de se reposer ici ou ailleurs. Le maître de poste, sa femme, le domestique, la marchande d'objets brodés d'or et d'argent, entraient tour à tour pour lui offrir leurs services. Pierre, sans changer de position, les regardait par-dessus ses lunettes, ne se rendant pas compte de ce qu'il lui voulait. Comment ces gens-là pouvaient-ils vivre tranquilles, sans avoir résolu les douloureux problèmes qui n'avaient cessé de le tourmenter depuis ce duel, suivi pour lui d'une si terrible nuit d'insomnie? Dans l'isolement de son voyage, il ne pouvait s'empêcher d'y revenir constamment, sans parvenir à les résoudre. C'était comme si le principal engrenage de son existence s'était tordu et tournait toujours sans accrocher le cran et sans pouvoir s'arrêter. Le maître de poste rentra pour lui dire humblement que, si son Excellence voulait bien attendre deux petites heures, il pourrait lui donner des chevaux de courrier. Il mentait évidemment et n'avait d'autre but que de rançonner le voyageur.
« Ce qu'il a fait est-il bien ou mal ?»
se dit Pierre.
« Pour moi qui en profite, c'est bien, mais pour le voyageur qui viendra après moi, ce sera mal. Quant à lui, il ne peut faire autrement car il n'a pas de quoi se mettre sous la dent. Il m'a assuré que l'officier l'avait battu pour cela. » Si l'officier l'a battu, c'est qu'il était pressé et que cela le retardait. Et moi, j'ai tiré sur Dologov parce que je me croyais offensé, et Louis XVI a été exécuté parce qu'on le regardait comme criminel. Et un an plus tard, on a exécuté ce qu'il avait condamné. Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bien? Que faut-il aimer? Que faut-il haïr? Pourquoi vivre? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Quelle est cette force inconnue qui dirige le tout?
Il ne trouvait pas de réponse à ces questions, sauf une seule, qui n'en était pas une.
La mort! Car alors, ou tu sauras tout, ou tu cesseras de questionner.
Mais c'était effrayant de mourir. La marchande de cuir de Torjok lui vantait d'une voix perçante sa marchandise, surtout des pantoufles en peau de chèvre.
« J'ai des centaines de roubles dont je ne sais que faire, et cette femme en pelisse déchirée me regarde timidement. Que ferait-elle de cet argent? Lui donnerait-il un cheveu de plus de bonheur ou de paix? Quelque chose au monde peut-il lui épargner, à elle comme à moi ? Les atteintes du mal ou de la mort? La mort, qui met un terme à tout, qui peut venir aujourd'hui ou demain, rend tout indifférent en comparaison de l'éternité. »
Et de nouveau, il pressait l'engrenage de ses pensées, qui continuaient à tourner, toujours à vide, au même endroit. Son domestique lui apporta un livre à moitié coupé, un roman par lettres de Madame de Souza. Il se mit à lire le récit des malheurs et de la lutte vertueuse d'une certaine Amélie de Mansfield.
« Et pourquoi a-t-elle lutté contre son séducteur ?»
se demanda-t-il.
puisqu'elle l'aimait. Il est impossible que Dieu ait fait naître dans son âme des désirs contraires à sa volonté. Mon ex-femme n'a pas lutté, et peut-être avait-elle raison. On n'a rien découvert, on n'a rien inventé, et nous savons seulement que nous ne savons rien. C'est là le dernier mot de la sagesse humaine.
Tout, en lui et au dehors de lui paraissait confus, incertain et répugnant. Mais cette impression même de répugnance lui causait une jouissance irritante.
Puis-je prier votre excellence de céder un peu de place à la personne qui me suit ?
Dit le maître de poste en entrant dans la chambre avec un autre voyageur, forcé, comme Pierre, de s'arrêter faute de chevaux. C'était un vieillard de petite taille, ridé, jaune, avec des sourcils gris qui retombaient sur ses yeux brillants, d'une couleur indécise. Pierre retira ses jambes de dessus la table et se leva pour se coucher sur le lit que l'on venait de lui préparer. Il regardait à la dérobée le nouveau venu. Celui-ci se laissa déshabiller d'un air fatigué par son domestique et resta en petite veste fourrée, couverte de nankin, et avec des bottes de feutre à ses pieds maigres et osseux. Il s'assit sur le canapé et appuya contre le dossier sa tête un peu forte. Il avait le front large, les cheveux coupés très courts. Le regard sérieux, intelligent et pénétrant qui le jeta alors sur Pierre, frappa ce dernier. Il allait lui adresser une question insignifiante lorsqu'il remarqua que le voyageur avait déjà fermé les yeux, en croisant l'une sur l'autre ses vieilles mains sèches. Il portait à l'un de ses doigts un anneau de plomb avec une tête de mort et semblait ou dormir ou réfléchir profondément. Son domestique était, comme lui, vieux, ridé et jaune, sans moustache et sans barbe, et l'on devinait, rien qu'à voir sa peau lisse et parcheminée, que le rasoir n'y avait jamais passé. Il déballa prestement le panier aux provisions, prépara la table de thé et apporta le samovar. Lorsque tout fut prêt, le voyageur ouvrit les yeux, se rapprocha de la table, versa deux verres de thé et en donna un au petit vieillard sans barbe. Pierre, embarrassé, sentait qu'il allait être inévitablement obligé de lier conversation avec lui. Le vieux domestique rapporta son verre renversé sur la soucoupe avec le morceau de sucre à moitié grignoté et demanda à son maître s'il n'avait besoin de rien.
« Passe-moi le livre, »
dit-il. Et l'ayant reçu, il se plongea dans sa lecture. Pierre crut s'apercevoir que c'était un ouvrage religieux et continua à l'examiner lorsqu'il le vit cesser de lire et reprendre sa première position. Il le considérait toujours, mais le vieux, se retournant de son côté, fixa sur lui un regard ferme et sévère qui le troubla tout en l'attirant d'une façon irrésistible.